بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc mes frères, inshallah, nous allons poursuivre la traduction et quelques commentaires du Coran et Pâques, et plus particulièrement le cinquième Sipara, le cinquième juz. Et comme nous avons précédemment mentionné, alhamdoulilah, avec l'aide d'Allah, on va donc suivre la démarche suivante. On va faire trois parties. D'abord la partie fiqh, c'est-à-dire les quelques masa'il, pas tous, mais il y en a plusieurs. Ensuite, la deuxième partie, on a intitulé, on va dire, un peu les péchés, c'est-à-dire ces actes de désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et le but de cela, c'est qu'on essaye de s'abstenir, de demander pardon par rapport à ça. Et troisièmement, la tazkiya, c'est-à-dire les qualités qu'on devrait essayer. Donc par rapport à cela, dans le quatrième sipara, qu'on n'était pas passé dessus parce que c'était hier, c'était Jum'a, Allah tabaraka wa ta'ala, il commence par un verset. Ce verset, Hurrimat, c'est le dernier verset du quatrième sipara, ce qu'on appelle Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Et le début du cinquième sipara, ce qu'on appelle wal muhsanat, alors c'est une continuation, c'est une suite. Et dans ce verset-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des personnes avec qui le mariage est interdit. Allah ta'ala parle des personnes avec qui le mariage est interdit. Il faut savoir que du temps de la jahiliya, de l'ignorance, avant l'arrivée de l'islam, Al-Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il dit qu'il y a plusieurs pratiques qui étaient répandues, et notamment, entre autres, le fait de se marier. Si par exemple le père, il quittait ce monde, alors le fils, il obtenait sa maman, c'est-à-dire l'épouse de son papa, en tant qu'héritage. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karaha. Et donc ça, c'était une pratique qui était répandue. Et pour mettre fin à ces pratiques-là, Allah tabaraka wa ta'ala, pour rétablir surtout la pureté, la iffat, c'est-à-dire la décence et la pudeur, Allah tabaraka wa ta'ala a donc mentionné ces règles. Et Allah ta'ala mentionne donc ce qu'on appelle les mahram, les muharramat, les mahram, c'est-à-dire les personnes avec qui il est interdit de se marier. Alors Allah ta'ala, il nous dit en ce sens, qalimat alaykum ummahatukum, donc on ne peut pas se marier avec nos mères. Et dans ces catégories-là, c'est-à-dire dans ces personnes avec qui le mariage est interdit, il y a trois causes principales. La première des causes, c'est ce qu'on appelle hurmate nasabiyya, c'est-à-dire le mariage est interdit avec ces personnes parce qu'ils font partie de notre famille, la maman, la sœur, la tante, etc. Deuxièmement, ce qu'on appelle hurmate rada'a, c'est-à-dire par la cause de l'allaitement. Si quelqu'un il a donc été allaité par une dame, par exemple Zayd, il a été allaité par une dame. Et Habiba, par exemple, une fille d'une autre famille, elle a également été allaitée par cette même dame. Alors Zayd ne peut pas se marier avec Habiba, parce qu'elles ont la même mère de lait. Et donc elles sont en quelque sorte comme frères et sœurs, frères de lait et sœurs de lait. C'est pour ça, donc ce qu'on appelle hurmate rada'a. Ça aussi c'est une cause des personnes avec qui on ne peut pas donc se marier. Et troisièmement, les mahrams par alliance. C'est-à-dire par exemple, on s'est marié avec quelqu'un, donc les liens qui vont se former, le gendre, le mari, il ne peut pas se marier avec sa belle-mère. De la même manière, le beau-père ne peut pas se marier avec sa belle-fille, l'épouse de son fils. Donc il y a ces trois types-là, et dans ce verset-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il mentionne cela, il nous dit « Hurrimat alaykum ummahatukum, vos mères, wa banatukum, vos filles, wa akhawatukum, vos sœurs, vos tantes paternelles, tantes maternelles, les filles d'un frère et les filles d'une sœur, c'est-à-dire notre neveu et notre nièce avec elle également, ce n'est pas permis, etc. etc. » Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il développe bien cela. Et maintenant, par rapport à cela, il y a d'autres, on va dire, ahkam, d'autres masa'il qui viennent se greffer par rapport à cela. Tout à l'heure, on a dit que l'allaitement, la cause de l'interdiction par le biais de l'allaitement, alors il s'est produit des cas durant l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui ce n'est plus autant d'actualité qu'auparavant, mais il faut quand même faire attention à cela. Et on nous dit que de la même manière qu'on ne peut pas se marier avec sa propre fille, c'est quelque chose qu'on connaît tous, si quelqu'un il a eu une relation illicite hors mariage, c'est-à-dire il a commis l'adultère avec quelqu'un, et de cette relation-là, une fille est née. Alors de la même manière, avec cette fille-là également, le mariage, ce n'est pas permis. De la même manière, Hazrat Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il nous dit, si quelqu'un il a commis l'adultère avec une femme, alors de la même manière que la belle-mère, c'est-à-dire la maman de votre épouse, avec elle, le mariage est interdit. De la même manière, si quelqu'un il a commis, Allah il me protège, nous protège, l'adultère avec quelqu'un, donc la maman de cette dame-là également, le mariage est interdit avec cette personne-là. Ensuite, après avoir mentionné tout cela, il y a beaucoup de ahkams qui sont liés à ça, mais voilà, en gros, on va dire en général, ce qu'on dénombre de cela. C'est-à-dire, une partie des personnes, les hurmatés, nasabiyya, les gens qui sont de la famille avec qui le mariage il est interdit, les hurmatés rabaa à cause de l'allaitement, les hurmatés sababiyya, c'est-à-dire à cause de l'alliance, à cause de la famille. Ensuite, par rapport à ces versets également, ce que Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il nous dit, c'est quoi? C'est que dans le verset, Allah tabarak wa ta'ala nous dit « Antabtaru bi amwalikum » qu'il vous est permis de les rechercher, c'est-à-dire lorsque vous allez épouser quelqu'un en vous servant de vos biens. Imam Abu Bakr Razi Jassas rahimahullahu ta'ala, il nous dit qu'on apprend deux choses de cela. Que le nikah, lorsqu'on va se marier, en contrepartie du nikah, il faut donner la dot, ce qu'on appelle le mehel. Et ça, c'est une obligation. C'est une obligation parce que dans le Coran n'est pas qu'Allah tabarak wa ta'ala dit « Qad alimna ma faradna alayhim ». Nous savons ce qu'Allah ta'ala dit. On a stipulé que pour le nikah, il faut donner la dot, il faut donner le meher. Alors maintenant, entre le mari et la femme, ils vont s'accorder. Dans le meher également, il y a plusieurs types de meher. Et le minimum du meher pour les hanafiyya, et ça c'est la deuxième partie, on va dire, de ce que Imam Abu Bakr rahimahullah ta'ala il nous dit, que le meher pour les hanafis doit avoir une valeur monétaire. Ça veut dire que ça doit être par exemple de l'argent. Et donc le minimum pour les hanafis c'est 10 dirhams. Et en ce moment, la dernière fois on avait affiché la page du CFCI pour le mois de Rajab, dans laquelle c'était écrit, je crois que ça datait à peu près, je ne sais pas combien c'était, si quelqu'un se souvient, quelques euros, en tout cas une dizaine d'euros à peu près, ça varie selon la valeur de l'argent et de l'or. Donc le minimum qu'on doit et qu'on peut donner pour se marier, bien sûr avec l'accord de la femme, l'époux et l'épouse se mettent d'accord, pour les hanafis c'est 10 euros. Et il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. Il peut y avoir un montant conseillé, c'est ce qu'on appelle le mehre fatimi. Alors là également, c'est une valeur qui varie en fonction de la valeur de l'or et de l'argent. Et si mes souvenirs sont bons, dernièrement, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois de cela, le montant du mehri fatimi se montait à environ 1300-1400 euros à peu près. Donc en un an, ça a beaucoup augmenté également. Donc ça, si quelqu'un il a la possibilité, alors alhamdoulilah, et en accord avec les personnes. Et Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il nous dit également, par rapport au verset qui vient après, wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida, il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mehr. Ça veut dire si le mari et la femme ils se sont mis d'accord sur un montant de par exemple 400 euros, et après si le mari veut donner plus, alors il peut donner plus également. Et si la femme elle dit non, c'est bon, je te fais maf, je vais te donner moins, alors il n'y a pas de problème. Et si elle veut totalement faire maf également, elle a le droit de faire maf totalement, bien sûr, hein, si les deux, فِمَا تَرَضَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَةِ, le mari et la femme, ils se mettent d'accord là-dessus. Et ensuite, par rapport à ce verset-là, il y a également un point que Hazrat Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il mentionne, il dit qu'il y a certaines personnes, un certain groupe, par rapport à ce verset, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ, dans ce ayat-là, ils disent qu'il y a un certain type de mariage qui est permis. Et ce certain type de mariage, à une époque, dans la shariat également, il était permis. Mais par la suite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Et c'est ce qu'on appelle le mut'a. On appelle le mut'a. Alors mut'a, c'est quoi? C'est que vous allez décider de vous marier avec quelqu'un pour une certaine durée. D'accord? Par exemple, ils vont faire un agrément, un contrat entre eux, ils vont se marier pour une certaine durée, et après, ils ne seront plus avec. Donc à une époque de la charia, cela était permis, mais après il y a eu l'abrogation de cette loi-là. L'abrogation à travers justement Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il nous dit que maintenant Allah Ta'ala a dit wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. À travers ce verset-là, on apprend, les fuqaha ils nous disent que ça c'est interdit, et de la même manière à travers un hadith sharif d'Hadith Ali radiyallahu anhu qui dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit naha an mut'atin nisa wa an luhumil humur al ahliya zaman khaybar, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de faire le mut'a entre autres. Et donc ça c'est quelque chose que maintenant ce n'est plus valable, on va dire. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, pour ceux qui sont un peu plus intéressés, il est parti un peu plus dans les détails pourquoi à travers ce ayat du Coran Sharif là, comment est-ce qu'on peut prouver ça. Il nous dit brièvement, même si c'est, on va dire, il faut certaines connaissances pour comprendre ça, que illa ma malakat aymanukum, c'est quelque chose qu'on appelle qui est qat'i ou dalala. Ça veut dire c'est clair, c'est explicite, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Et dans ce fameux stamta'antum là, c'est une possibilité. Et pourquoi est-ce qu'ils ont retiré ça, ces gens-là? C'est parce que le mot mim, te'ayn, qui veut dire retirer un bienfait. Donc ils ont pris, on va dire, le sens littéral, et c'est pour ça qu'ils sont allés là-dessus. Donc face à quelque chose qui est qat'i ou dalala, qui est prouvé de manière claire et explicite, quelque chose qui est ihtimal ne fait pas le poids. Et même si Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il nous dit, même si on prend cette preuve et qu'on dit que les preuves, elles se valent, alors lorsqu'on a en notre possession un élément qui interdit quelque chose, qu'on appelle quelque chose qui est muhrim, et quelque chose qui est mubih, quelque chose qui permet quelque chose. Alors, إِذَا جِتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ, c'est-à-dire, lorsqu'il y a deux aspects d'une chose, un qui dit c'est permis, l'autre c'est pas permis, alors on va prendre celui qui n'est pas permis par précaution, وَاللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى, il sait mieux. Et après avoir mentionné tout cela, Allah تبارك وتعالى, il nous dit également يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, que l'être humain il a été créé faible. C'est-à-dire qu'il a ses désirs, il a ses passions, il a ses envies, et on ne peut pas, on ne va pas lui dire de totalement délaisser cet amour pour les femmes. On ne va pas laisser une totale liberté non plus. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a mis le mariage pour quoi ? Pour contrôler ses pulsions et également pour s'approcher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour protéger sa foi. Dans le mariage, il y a la protection de cet aspect de pudeur. Et dans ces versets-là également, à un moment, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il parle du zina, de l'adultère. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, en quelques mots, comme à son habitude, alhamdulillah, il nous dit que dans le zina, c'est-à-dire dans l'adultère en lui-même, le but, le maqsad, c'est quoi ? Shahwate rani. Safhima pani bahana maqsud hotahi. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté de construire quelque chose, d'avoir des enfants, de mener une vie saine, on va dire, et organisée, mais c'est juste le fait d'assouvir purement et bestialement, on va dire, ses désirs. Donc voilà un peu pour les mas'ala. Alors dans ce sibara-là, dans ce juz, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mentionnées, notamment Allah tabarak wa ta'ala, il parle des masa'il de qasr, c'est-à-dire وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Alors qasr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque quelqu'un, il va parcourir la distance grâce à laquelle il va devenir un voyageur, considéré comme un voyageur, musafir. En général, vous apprenez à la madrasa, en général, c'est la distance de 77 km et quelques centaines, 215. Donc voilà. Et on va dire également, il y a également une autre opinion qui est moins connue, mais qui est également l'opinion de certains savants qui disent que c'est un peu plus que ça, à peu près 88 km. Wallahu a'lam, Allah tabaraka wa ta'ala, il sait. Mais ça c'est prouvé à travers ce verset du Coran Sharif, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il vous donne la possibilité, il vous allège et il vous facilite votre trajet. Imaginez, alors imaginez que vous allez voyager même d'ici à Saint-Joseph pour aller jusqu'à Saint-Denis. Et c'est vrai que, comme certains le disaient, peut-être parfois on a l'impression qu'à La Réunion on ne peut pas devenir moussafir, mais entre Saint-Joseph et Saint-Denis il y a plus de 77 km et les quelques centaines de mètres, on va dire. Donc si vous allez voyager de Saint-Joseph pour aller à Saint-Denis pour une durée inférieure à 15 jours, vous allez pour un instant par exemple ou pour quelques jours, alors dans ce cas-là, lorsque vous allez accomplir les salats Zohar, Asar et Isha, c'est-à-dire seul, pas avec Jamaat, hein, seul, alors au lieu de faire 4 rakat, vous allez faire 2 rakat. Vous allez faire 2 rakat de namaz Zohar, 2 rakat de namaz Asar et 2 rakat de namaz Isha. Par contre, si vous arrivez dans une masjid, vous êtes à Saint-Denis, ou même avant Saint-Denis, c'est-à-dire à partir du moment où on a quitté les limites de Saint-Joseph, si on habite ici, on arrive, et sur le chemin, c'est l'heure de Assar, on arrive à Saint-Pierre. Alors au lieu de faire quatre, puisque notre intention, ça c'est important dans le Safar, l'intention, on a l'intention de Saint-Joseph, on a l'intention d'aller à Saint-Denis. Et sur le trajet, quand on arrive à Saint-Pierre, c'est l'heure de Assar. On se dit, tiens, ben, je vais faire Assar toujours. On va, et la jamaat est terminée ou pas encore terminée, c'est dans l'heure de Assar. Vous faites la prière, là également vous faites deux. Vous ne faites pas quatre, même si vous n'êtes pas encore arrivé à destination. À partir du moment où vous avez quitté les limites de la ville. Et de la même manière, lorsque vous retournez, tant que vous n'êtes pas entré dans les limites de votre destination de retour, alors vous êtes toujours considéré comme Moussafir, c'est-à-dire comme un voyageur. Et donc, au lieu de faire 4 rakat dans les salats de Zohar et de Asar et de Isha, alors vous allez faire 2 rakat. Pour ce qui est de Fajr et Maghrib, il n'y a pas, puisque c'est 2 et 3. Pour ce qui est des sunnahs, Mu'akkada, alors si on a le temps, et si les gens qui sont avec nous également, alhamdulillah, on a le temps, alors alhamdulillah, on peut faire également, mais si quelqu'un il est un peu pressé, etc., en général, quand on est en voyage, etc., alors il peut partir et donc délaisser ses sunnats également. Et un autre mas'ala que Allah tabaraka wa ta'ala mentionne également dans ce cinquième sipara, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle la salatul khawf. وَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا etc. Allah Ta'ala parle de salatul khawf. Alors salatul khawf, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle idafat ila sabab. C'est-à-dire c'est une prière qu'on va faire dans une situation de peur. Alors situation de peur, ça veut dire quoi? Imaginez que les gens, les sahaba radiallahu anhum, et c'est arrivé, Allah Ta'ala il a révélé ce verset là et dans Mishkat al-Masabih également, il y a les ahadiths concernant ces règlements. Et dans d'autres kitabs, probablement. Donc, les sahaba, ils étaient dans une situation de guerre. Et les ennemis voulaient les attaquer. Et ils savaient également que les sahaba, au moment de la prière, ça sera un moyen pour nous de pouvoir, on va dire, attraper du terrain et battre et les combattre, etc. Donc, Allah Ta'ala, il a mentionné une méthode pour prier lorsqu'on est dans cette situation de peur. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes également à travers les hadith mubaraka. Bref, en gros, ça veut dire quoi? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera là. Il y aura un groupe qui va faire la jamaat et un autre qui va veiller la garde. Et lorsqu'ils ont fini un rakat, alors le deuxième groupe il va prendre la place, il va faire le deuxième rakat, il va compléter ça, et le deuxième il va revenir et il va terminer, il va compléter sa salah. En gros, ça donne ça. Mais tout cela, le but c'est pour montrer quoi? Que même dans une situation telle, Allah Ta'ala il n'a pas abandonné la salah. Allah Ta'ala il n'a pas dit non. Là, vous avez un danger pour vous, alors namaz, c'est maaf. Non. Même dans cette situation-là, Allah Tabarakata, il a donné, et c'est ce qu'on dit dans toutes les situations, même quelqu'un, il est malade, il ne peut plus s'asseoir, ou alors il ne peut plus bouger, même parfois, toujours Allah Tabarakata, jusqu'à tant qu'il n'a pas quitté cette terre, alors cette salat, elle reste obligatoire sur lui. Donc voilà un peu, en gros, on va dire, pour ce qui est des masaïl, bien sûr, comme on a dit, le but, c'est pas de tout reprendre, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et on ne peut pas tout mentionner. Ensuite, concernant les péchés en eux-mêmes, le premier qu'on va mentionner, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un ayat en ce sens, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu anfusakum. Ô les croyants, ne vous tuez pas vous-mêmes, c'est-à-dire ne commettez pas le suicide. Ça, c'est un péché kabira, c'est-à-dire c'est un grand péché. Et dans le verset qui suit après, Allah ta'ala justement, il parle de cette distinction-là entre les péchés majeurs et les péchés mineurs, c'est-à-dire les péchés kabira et les péchés sarira, les gunas kabira, gunas sarira. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Alors comment est-ce qu'on va déterminer ce qui est péché kabira et ce qui est péché sarira? Certains ulama, ils disent que il y en a sept grands péchés. D'autres, ils vous disent que c'est quelque chose de relatif, que chaque péché par rapport à l'autre, il est plus grand que l'autre. D'autres, ils en ont mentionné 70, etc., etc. Dans le commentaire de Sahih al-Bukhari de Malana Salimullah Khan Sab, Rahmatullahi Ali, Kashful Bari, à un moment, il a expliqué ça. Et Mufti Shafi Sahib, Rahmatullahi Ali, il a plutôt développé, on va dire, cette partie-là. Mais le but, c'est quoi? C'est de dire que ce suicide-là, certains savants également, ils vous disent qu'on va déterminer un guna kabira. Comment? Si, par exemple, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit la personne qui fait cette action, alors ça, c'est un des signes que ce péché, c'est un grand péché. S'il a dit que telle action, ça amène vers l'enfer, alors ça veut dire que c'est un signe que c'est un grand péché, etc., etc. Pour ce qui est des gunas et sarira, des petits péchés, alors cela peut être pardonné par quoi? Parfois par le wuzu. Quand on vous dit des choses, quand vous faites le wuzu, Rasulullah a dit que les péchés, ils se, exactement, l'eau qui descend, qui découle de nos parties, de nos membres là, alors ils vont effacer les péchés. Et pour les gunas kabira, pour les grands péchés, alors il faut absolument demander pardon sincère à Allah tabarak wa ta'ala. Il faut délaisser cette action et avoir la ferme intention de ne plus recommencer cette action. De la même manière, si c'est un péché qui a une relation avec l'autre, avec autrui, si par exemple on a emprunté, on a usurpé de l'argent, alors il faut absolument rendre cet argent-là. Donc voilà, oui, par rapport à ça. Donc le suicide, c'est un grand péché également, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que selon nos croyances, ce qu'on appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, le groupe auquel on appartient, au-delà des madhhabins, dans les croyances Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gunas kabira, ce sont quelque chose de très grave, mais on reste toujours musulman. D'accord? Ça ne veut pas dire que quelqu'un il a commis un grand péché, même s'il a commis un meurtre. Ici aussi dans le Coran Sharif, Allah tabarak wa ta'ala dit: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui a commis donc un meurtre volontairement, c'est un grand péché, mais la personne elle est toujours musulmane. Et pourquoi on mentionne ça? Parce qu'il y a des gens, certains groupes de personnes, ils vous disent que non, si quelqu'un il a commis un grand péché, alors il n'est plus musulman. Donc ça, c'est pas notre croyance, d'accord? Même si quelqu'un de manquer une prière, ça aussi c'est un grand péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, à la page 78 dans le volume 1, sur le papier, c'est écrit que si quelqu'un il a manqué une seule salat, alors c'est comme si il avait perdu toute sa famille et il avait perdu tous ses biens. Donc tout cela pour dire quoi? Que les grands péchés, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est quelque chose qui ne nous fait pas sortir de la foi. Quelque chose qui ne nous fait pas sortir de la foi. De la même manière, dans cette rubrique, on va dire, des péchés, quelque chose qui est extrêmement grave, qu'Allah tabarak wa ta'ala mentionne, c'est quoi? C'est le shirk. Et ça, c'est le shirk. Dans ce verset-là, Allah il nous dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. En dehors de ce shirk, d'associer quelqu'un à Allah tabarak wa ta'ala, et du coup, bien évidemment, Allah ta'ala, il peut pardonner tous les péchés, de qui il veut, à condition que la personne, il ait la foi et il ait l'iman. Quelqu'un qui a commis quel que soit le péché que la personne ait commis, d'ailleurs le récit assez connu dans lequel il est dit qu'une personne il avait commis 99 meurtres. Alors il est parti vers un savant, vers une personne, lui a demandé: est-ce qu'il y a un tawba, est-ce que je peux demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala? Il a dit non, Allah ne va pas te pardonner. Mais il a tué cette personne aussi, ça fait 100. Ensuite il est parti vers quelqu'un d'autre qui lui a dit: oui, tu pourras demander pardon, mais quitte en quelque sorte ton endroit où tu es, etc., etc. Dans l'Iyad al-Salihin, c'est mentionné. Donc même ça, Allah tabarak wa ta'ala, il est prêt à pardonner. Ça reste un grand péché, mais sur le pardon, on va dire, il ne faut jamais, jamais, en aucun cas, désespérer de la clémence d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Au contraire, si on va désespérer, là on est dans le péché même. Là. Ça, c'est un péché. Bien sûr, il ne faut pas avoir trop d'espoir pour se permettre tous les péchés. Il ne faut pas avoir trop de crainte pour ne plus faire de bonnes actions non plus. Hadrat Maulana Masih Ulumat rahmatullahi alayh, dans son khutubat, il dit que le degré de crainte qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est-à-dire combien on doit craindre Allah tabarak wa ta'ala. On doit craindre Allah tabarak wa ta'ala de sorte, de la quantité qui nous permette de ne plus faire de péché. Et il se base sur quoi? Sur un hadith, sur un dua du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit en ce sens: Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik. Ô Allah, je te demande, accorde-moi la part de ta crainte de sorte qu'elle soit une barrière. C'est-à-dire qu'il faut que la peur, j'ai autant de peur que ça m'empêche de faire des péchés. Si on a autant de peur que ça d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors ça c'est bon. Ça c'est assez, ça c'est suffisant. Donc on a parlé du shirk. Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il dit que d'associer quelqu'un à Allah tabaraka wa ta'ala, concrètement ça veut dire quoi? Il y a plusieurs formes de shirk. On avait vu ça, alhamdulillah, dans le verset. Bref, brièvement, il mentionne quelques catégories. Il dit ilm et sharik terana, c'est-à-dire na'uzubillah, de dire que quelqu'un il a l'omniscience comme Allah. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas avoir la science, l'omniscience comme Allah. Seul Allah tabarak wa ta'ala il a la science sur toute chose. Deuxième chose, ibadat mais sharik terana, adorer quelqu'un na'uzubillah comme on adore Allah tabarak wa ta'ala. On avait dit la dernière fois qu'ici qu'au sajda karna, de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Dans l'histoire, dans le récit de Adam alayhi salatu wa salam, on avait expliqué, les savants certains ils vous disent que c'était pas une prosternation, c'était une manière de se courber quand on salue les personnes. Jusqu'à aujourd'hui dans notre époque, il y a des gens qui font ça. Ou alors Adam alayhi salatu wa salam était là, mais la qibla c'était Allah tabarak wa ta'ala, fallait se diriger vers Allah. Donc ces explications là sont données. Donc voilà un peu pour le shirk. De la même manière, Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne à travers ces versets-là, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوبِ. C'est-à-dire que ce péché-là, il concerne quoi? De raconter tout ce qu'on entend. Et là, malheureusement également, c'est quelque chose sur lequel on ne porte pas notre attention. Alors que dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. C'est-à-dire, il suffit à l'être humain de faire un péché. Il suffit de quoi? De raconter tout ce qu'il entend, sans même chercher à savoir si c'est vrai. Quelqu'un nous a dit ça, alors tout de suite on va raconter ça. Allez, voilà. Et le problème, en quelque sorte, en plus, c'est quoi? C'est que à l'origine, le message entre le message d'origine et le message à la destination finale, parfois c'est totalement l'opposé qu'on entend. C'est-à-dire, on a dit A et ils entendent Z. Donc ça aussi, il faut qu'on fasse attention par rapport à cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous permet, nous protège également. Il y a d'autres choses également qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a mentionné. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا. C'est un péché qui mérite, donc comme on a dit, la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens qui sont tombés dans l'homosexualité, dans l'intérêt, dans le riba, donc comme on a dit hier, etc. Allah ta'ala nous permet de nous protéger par rapport à cela. Et enfin, la dernière partie, on va dire, tazkiyah, les quelques actions brièvement, inshallah. Il y a d'abord une action extrêmement méritoire, qu'on ne parle pas assez de cela malheureusement, et qui nous concerne, alhamdoulilah, en général, la majorité de la population, on va dire, c'est quoi? C'est le commerce. Ça, c'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il aime beaucoup, et c'est quelque chose que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, on l'a demandé, dans un hadith sharif rapporté dans le Mustadrak al-Hakim, on a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel était le gain le meilleur, c'est-à-dire c'est quoi le meilleur moyen d'obtenir sa vie. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce que l'homme acquiert par le travail de ses mains est tout commerce licite. Autant que possible, une fois un sahaba il est venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu demander de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, voilà, je vais t'acheter une hache, va dans la forêt, va couper du bois, travaille et ensuite vends cela. Il faut qu'on apprenne également à travailler avec nos mains. Et même les prophètes, les anbiya alayhi wa sallatu wa sallam, il est dit dans les hadiths mubaraka que tous ils ont été béagés, gardiens de troupeaux. Donc ils ont travaillé. De la même manière, il est dit à propos de Hazrat Zakaria alayhi salatu wa sallam, si je ne me trompe, qu'il était charpentier, lui également. Hazrat Daoud alayhi salatu wa sallam, de le Coran Sharif Allah tabaraka wa ta'ala, il parle également de ça. Et dans d'autres hadiths mubaraka, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tellement pour montrer la vertu du commerce, qu'est-ce qui est dit en ce sens rapporté par l'imam Tirmidhi et Hakim rahimahullah ta'ala, At-tajiru as-saduq al-amin. Ça veut dire le commerçant qui est sincère et qui est honnête. Sa récompense, ce sera quoi? At-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. Allah lui donnera un tel degré qu'il sera avec les prophètes, avec les martyrs et avec les véridiques. Ça, c'est le degré du commerçant. Mais comme Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi nous dit, les conditions par rapport à cela, c'est quoi? Bien sûr, de ne pas frauder, de ne pas mentir. Si vous savez que votre marchandise, il y a des défauts dedans, alors n'allez pas vanter votre marchandise à l'encontre de ce que vous savez. Ça, c'est être déloyal, c'est pas être honnête envers cela. Donc, de ne pas mentir, de ne pas frauder, de ne pas utiliser l'intérêt, de pas tout ce qui regroupe à ça, d'être honnête, on va dire en général, comme Rasulullah a dit, sincère et honnête. Alors cette personne, tellement la grande récompense qui sera quoi? Il sera avec les anbiya, avec les prophètes, avec les véridiques. Et encore une fois, dommage, on a oublié d'amener, il y a même un petit livret que Hazrat Malana Zakaria rahimahullah ta'ala, il a écrit, si je me trompe, c'est de lui, et c'est même traduit en français, inshallah, on va essayer d'amener pour ceux qui veulent, sur les vertus du commerce, les barakas qu'il y a dans le commerce, les bénédictions et les vertus du commerce. Donc ça, c'est une bonne action. Et lorsque nous sommes dans notre commerce et nous faisons cette action, pensons que nous sommes dans le din. Pensons que nous sommes dans le din, ça veut dire quoi? Qu'on va travailler comme Allah il me demande de travailler. Et Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous donnera Inch'Allah beaucoup de baraka. Quelque chose également qui est important, on va dire, dans cette rubrique-là, c'est par rapport à ce verset « Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila » Ça veut dire, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, en tête, il dit de ne pas se croire sans défaut. Et en général, malheureusement, lorsque quelqu'un, il monte et il emprunte la voie de la piété, ça c'est un des pièges du shaitan. Il pense qu'il est meilleur que les autres, il voit les défauts des autres, et il pense qu'il est bon. Et même dans cette catégorie, si vous voulez, on peut trouver deux choses. On peut trouver d'une part l'orgueil, ça veut dire moi je suis meilleur que les autres, ou alors on peut penser que moi je suis bon, eux aussi sont bons, mais moi aussi je suis bon. Donc même de se croire bien, de se sentir muzakka, musaffa, de se sentir sans défaut, etc., etc., ça c'est quelque chose qui n'est pas bon. De la même manière, une action également qui est très importante, c'est quoi? C'est de rendre la amana. Dans ce verset-là, « Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha » Allah tabarak wa ta'ala, il nous ordonne de quoi? De rendre les dépôts. Et par rapport à ce verset-là, il y a un récit, ce qu'on appelle le « shani nuzul » brièvement, c'est quoi? C'était « hadat » Uthman bin Talha, qui n'était pas donc à l'époque musulman, eux c'étaient les gens qui avaient les clés de la Kaaba. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment il voulait entrer, il lui a dit non, il ne voulait pas donner les clés. Il ne voulait pas donner les clés au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit en ce sens qu'un jour viendra où la Kaaba sera en notre possession, c'est la possession des musulmans. Et après la conquête de Makkah, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, et donc il a fait appeler cette personne-là, il a pris la clé, il est allé comment prier dans la Kaaba, si je ne me trompe. Et après, il a dit appeler, lorsqu'il est ressorti, si je me trompe bien dans le récit, en ce sens, il a dit, au Fichafi Sahib Rahmatullah Ali, il mentionne à la page 444, dans le deuxième volume, Ma'arif al-Qur'an. Il dit, le prophète d'Allah, quand il est sorti, il a appelé Uthman bin Talha, et il lui a dit, tu te souviens ce que je t'avais dit à l'époque?
Oui.
Et ces gens-là, cette famille-là, c'était toujours eux qui avaient les clés de la Kaaba. Et lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il a révélé ce verset, qu'Allah vous ordonne de rendre ce qui appartient aux autres, alors le prophète d'Allah s'en dit, voilà, Allah ta'ala a dit ça, voilà, je te rends les clés de la Kaaba. Donc il a suivi l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose de très important, de rendre l'amana. Et pour ce qui est de amana, Haji Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a mentionné un riwayat qui vient de Jam'ul Fawaid, Allama Sulaiman, Muhammad ibn Sulaiman al-Maghrabi rahimahullah ta'ala, à la page 325, qui dit également que amana, faire confiance, être loyal, ça veut dire quoi? Fir usne ko, il dit en ce sens, hein, dit shakhs ko am musalmano ki ko izim midari supur ki gaiho. Fir usne ko ya uhda ki si shakhs ko mahaz dosti wa ta'alluk ki mad me baghair ahliyat ma'lum kiye huwe de diya us par Allah ki la'nat. نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے اللہ نے پوچھا. Si quelqu'un il est responsable, par exemple moi je suis responsable d'une madrasa, et demain je dois embaucher quelqu'un, je dois embaucher un professeur, et il y a mon frère de sang par exemple, alors sans avoir au préalable fait les tests, on va dire, est-ce que cette personne elle est compétente ou pas, et juste parce que c'est quelqu'un de ma famille ou c'est quelqu'un que je connais, vous l'avez mis en la place-là, vous l'avez mis en tant que professeur, parce que vous le connaissez, pas parce qu'il est compétent, hein. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit en ce sens que la malédiction d'Allah est sur cette personne-là. Et si on reprend les mots même du hadith, ni ses actes obligatoires, ni surérogatoires ne seront acceptés par Allah tabaraka wa ta'ala. Tellement ce amana-là, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, et dans d'autres ayats du Coran Sharif, Allah Ta'ala, beaucoup d'endroits il parle de ça, dans ce même cinquième sipara, كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ أَوِ الْأَقْرَبِينَ. Parfois on se dit, on peut se dire, et malheureusement ça c'est le piège du nafs, que non, ça c'est mes parents, alors non, pour mes parents, donc la loi de la shari'at, on peut faire des concessions. وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, devant l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala, et c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala dit, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Même si c'est contre toi, même si c'est contre tes parents, même si c'est contre les gens de ta famille, c'est la loi d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concession. A tel point que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient? À une époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne riche qui avait donc volé. Ils ont dit à un sahaba, va, toi tu es bien proche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va intercéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très en colère. Atashfa'u fi haddim min hududillah. Vous venez intercéder sur une des peines, des sentences de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit en ce sens, walladhi nafsi biyadihi law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, même si Fatima, la fille de Muhammad, c'est sa propre fille, avait volé, alors j'aurais appliqué la sentence. Et Allah l'a préservé de cela. Donc ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Et vous savez, quand on va suivre le dîn, alors il n'y aura plus de problème. Après, on se demande, oui, ben pourquoi demande comme si... Ben nous aussi, allons essayer de marcher, on va dire, selon les principes et les règles d'Allah, tabarak wa ta'ala. Allah, il m'accorde, inshallah, la compréhension et il nous donne, inshallah, la capacité de pratiquer, juste inshallah, parce que comme on a dit, le but inshallah c'est d'arriver à ça. On va juste brièvement remensionner juste les points principaux. Dans les fiqh, les mas'alas, on a vu ce qui est mahram, et dans les mahram, donc on a vu les gens qui sont de la famille, ceux qui sont par rapport à l'allaitement, ceux qui sont par rapport aux alliances. Et ensuite, on a vu, deuxième chose, oui, le muta'a, le mariage qui était donc pour une période stipulée, ça, ce n'est plus valable aujourd'hui. Donc, c'est un péché également. Et dans les péchés, on a vu le suicide, ça, c'est un acte interdit. On a vu les différents types de shirk. On a vu de raconter tout ce qu'on a entendu sans vérifier. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Dans la tazkiyah, dans les bonnes actions, on a vu les vertus du commerce. Une grande action, si quelqu'un va être honnête et sincère, alors il aura un grand degré auprès des prophètes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Mais de faire avec les conditions, comme Allah tabaraka wa ta'ala, et d'aller demander comment également travailler. La générosité, on n'a pas parlé de ça, mais c'est également une grande, grande, grande action. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minannas, ba'idum minannas ». La personne qui est généreuse, elle est proche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est proche du paradis, elle est loin de l'enfer. Ensuite, on a vu également ne pas se croire sans défaut. Nous sommes ce que nous sommes, nous avons été créés à partir d'une goutte de sperme impure. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la compréhension. On a vu également le ran amana, c'est-à-dire quand on nous a donné un poste, de faire très attention. Et comme Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il dit qu'en général, lorsqu'on ne va pas être juste, c'est justement à cause de ça. Parce qu'on connaît quelqu'un, mais c'est quelqu'un de ma famille. Qarabat ou bien dost, parce que c'est mon camarade, etc. Allah Ta'ala, il nous permet, Inch'Allah, avec foi, avec conviction, avec afiyat, Inch'Allah, en nous pardonnant, de nous permettre de pratiquer ces quelques paroles. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbana Taqabbal Minna.